RFI.
Alors, on dit quoi ?
Coucou, c'est Diarra. Alors, on dit quoi ? Et de retour, et cette semaine, nous parlons d'art. Bon, l'art, c'est vaste. Nous allons parler précisément d'art plastique. Et pour être encore plus précis, de l'art plastique en Mauritanie, où vous allez découvrir le portrait de deux jeunes plasticiennes que j'apprécie beaucoup. Amissaou et Khadidiatou Mint Ismaël se sont lancées dans cet univers pour éveiller les consciences, mais aussi pour faire passer de nombreux messages à travers leurs sculptures. Je n'en dis pas plus, on découvre leur portrait dans quelques instants. Et bien sûr, ce n'est pas tout, je vous propose aussi de découvrir une expo d'artistes sénégalaises. À l'origine de ce projet, c'est Raba qui nous expliquera l'ambition d'Exponentiel. Et je n'ai pas oublié mes acolytes hebdomadaires Anna, Johan et Valdez. Vous découvrirez un rendez-vous tendance en Côte d'Ivoire, la Sunday Abidjan. Il est aussi question de cuisine avec des conseils pour éviter les bouillons de cubes alimentaires. Et enfin, vous saurez si oui ou non les oignons ont des vertus miraculeuses pour notre santé. Voilà, voilà, je vous propose d'y aller. Atiagnodem, c'est parti.
Alors on dit quoi avec Diarra Ndiaye?
Focus donc sur l'art contemporain et en particulier l'art plastique. Pour en parler, je suis en compagnie de Kéliane qui est étudiante en école d'art. Bonjour.
Bonjour.
Je suis également en compagnie de Hyacinthe Ouattara qui est artiste plasticien burkinabé. Bonjour Hyacinthe.
Bonjour Diarra.
Et enfin, notre dernier invité, Evans Mbungwa, artiste kényan. Bonjour.
Bonjour.
Et sans plus tarder, je vous propose d'aller à la rencontre de deux plasticiennes mauritaniennes qui tentent de s'imposer dans leur pays. C'est aussi, nous le verrons, une façon créative de lancer des messages et éveiller les consciences sur diverses thématiques. Reportage d'Ami, notre correspondante en Mauritanie.
En Mauritanie, le métier d'artiste plasticien est pratiquement une affaire d'homme. Béchir Maloum, Maurice ou Salah Lo comportent parmi les célébrités du domaine. Ce sont les habitués des espaces d'exposition comme le Musée National, l'Institut français de Nouakchott ou encore le Centre culturel marocain, pour ne citer que cela. Pourtant, quelques jeunes femmes comme Amissaou, Zeynep Mintchia et Khadidiatou Mint Ismaël sont parvenues à intégrer cet univers plutôt masculin. Elles y apportent une touche féminine. C'est le cas d'Amissaou, pour qui cet art est une passion d'enfance.
C'est Amissaou, artiste plasticienne mauritanienne. Moi, je suis née dans une famille d'artistes. En fait, toute la famille, je peux dire, est artiste. Depuis que j'étais toute petite, je nageais dans cet univers-là. J'aimais tout ce qui est couleurs, perles. Ma mère avait un atelier de couture, du coup, je nageais dans un univers très coloré. Je dessinais sur mes cahiers, je dessinais sur mon ardoise. Mon père aussi était là. Je me rappelle bien, c'est lui-même qui m'aidait à faire des petits lapins et tout. C'est à partir de là que je me suis dit que Ami est passionnée de peinture et de dessin.
Amissaou, c'est un nom retentissant dans le milieu de l'art mauritanien. Elle fait partie des membres fondateurs de la Maison des artistes, un espace créé en 2002 avec l'Union des artistes peintres. Depuis bientôt 3 ans, l'artiste a mis en place Art Galet, une galerie d'art bâtie avec des matériaux de récupération, attirant amateurs professionnels et autres passionnés d'art.
Moi, je suis autodidacte. Je n'ai pas fait d'école de beaux-arts. En Mauritanie, je pense qu'il n'y a pas d'école de beaux-arts. Ça m'a poussée à dire qu'un jour, quand j'aurai un peu de moyens, je vais me construire quelque chose qui ressemble aux artistes. Quelque chose artistique. Le concept d'Art Galet, c'est un espace d'échange et de rencontre et surtout de créativité. À l'école, les jeunes n'ont pas la chance de faire les arts plastiques. C'est pas inscrit dans le programme scolaire. C'est notre lutte pour que les arts plastiques soient inscrits dans le système scolaire. Art Galet est construite d'une manière un peu particulière, que j'ai voulu changer le système de construire et dire qu'avec la récup, on peut faire beaucoup de choses, particulièrement le bois, les pneus et autres.
Faire la différence et continuer de dessiner, peindre ou encore sculpter, la représentation d'une société assez conservatrice, selon Mortar Oussi de Mohamed, alias Mohis. Il est le président des associations des artistes plasticiens en Mauritanie.
Que la société mauritanienne accepte difficilement une femme qui est artiste, parce que le mari ne peut jamais accepter que sa femme peigne et passe tout son temps à peigner alors qu'elle doit s'occuper de trucs ménagers.
Dans ce contexte défavorable à la promotion de l'art féminin, les femmes artistes ont besoin de soutien pour frayer leur chemin.
Je m'appelle Oumar Ndiaye, je suis le mari de Ami. Je pense que tout homme doit être large et compréhensif envers son épouse, sinon ça ne va pas. Donc le fait que la femme travaille, moi ça me dérange pas. Et au contraire, ça va m'aider. Et quand elle n'est pas là, parfois je prends la relève, hein, je fais quelques boulots à la maison. Et quand elle est là, elle reprend le service. Donc, au fond, ça me fait plaisir.
Une belle harmonie pour certains couples mauritaniens. Donc, cette passion artistique pour ces femmes a fait des émules, notamment auprès de la jeune génération.
Je m'appelle Khadijatou Mint Mohamed. J'ai commencé à dessiner à l'âge de 10 ans. Et maintenant, j'ai 15 ans. J'aime bien dessiner. C'est ma passion et on m'encourage souvent à le faire. Nous pouvons être des artistes plasticiennes, être en femme, être comme tout le monde. Et nous voulons devenir des artistes célèbres. Moi, c'est une passion que j'ai et j'ai envie de la développer et être mondialement connue.
Amisso n'est pas encore connue dans le monde entier, mais elle combine passion et engagement en mettant l'art au service de la société mauritanienne.
Je me débrouille en tant que femme au foyer et qui a son métier, qui est artiste, qui se bat et qui prouve dans l'art, parce que il ne faut pas oublier que c'est le métier que j'ai embrassé, je suis engagée dedans en fait. C'est pas un métier que je fais. Déjà c'est une passion, je le fais, mais là c'est parti au-delà de la passion.
Diana Manjom, une jeune sociologue, est consciente du rôle de l'art plastique dans la sensibilisation.
Les femmes qui font l'art plastique ont un grand rôle à jouer en matière de sensibilisation et en matière de changement comportemental. Aujourd'hui, par occasion, on est là à Argalé avec Amisso. Moi, ça m'a beaucoup intéressée quand j'ai vu qu'elle faisait de l'art pour dénoncer, par exemple, tout ce qui est violence faite aux femmes, tout ce qui est droits humains. Et de là, j'ai su que les artistes aussi ont vraiment un très, 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 très grand rôle à jouer, d'autant plus qu'ils ont des publics un peu différents et ça peut être aussi une autre manière de sensibiliser qui ne soit pas la sensibilisation classique qu'on connaît. Donc l'art, et ça revient encore sur une vieille question qui est l'art et l'engagement.
Femmes et art plastique en Mauritanie, une image difficile à faire accepter. Ces femmes sont aussi des combattantes de la liberté.
Femmes et art plastique. Alors Kellyanne, comme c'est la fille de notre plateau, je vais commencer par vous. Je vous ai vu réagir durant le reportage. Que vous inspire le parcours de Khadijatou et Ami, des femmes qui se battent pour s'imposer dans l'art?
Pour moi, c'est très important qu'il y ait des femmes qui cherchent à s'imposer et à prendre leur place dans l'art, car je pense que le fait d'être femme et d'être noire en plus, c'est une sorte de handicap. Je me souviens que lorsque j'ai commencé mes études et que je parcourais les livres d'histoire de l'art, j'ai vu très de personnes qui me ressemblaient, qui étaient donc noires et femmes. Et le fait de voir des personnes comme elles s'exprimer, bah, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir.
C'est intéressant de s'identifier finalement à ces femmes qui sont comme vous dans le milieu de l'art. Hyacinthe, des femmes qui tentent de conquérir l'art plastique mauritanien, vous en pensez quoi?
Mais c'est tout à fait légitime. Je trouve que effectivement son intervention, son reportage m'a beaucoup interpellé, parce que on se rend compte vite que les femmes existent peu dans le milieu artistique. Et ça, c'est vrai que nous, on le voit avec le recul maintenant, parce que moi, des fois, autour de moi, je me suis dit effectivement, c'est vrai qu'il y a moins de femmes artistes, mais c'est dû au fait que certaines sociétés ne sont pas encore libérées. Et malheureusement, c'est le cas, hein, il faut le dire. Et donc, du coup, c'est bien qu'il y ait des pionnières comme ça qui prennent le devant et essayent de défendre les choses et mettre les choses en place et dire que c'est possible d'être artiste et femme.
Vous avez le sentiment que les choses peuvent évoluer aujourd'hui, qu'on voit davantage de femmes?
Et je pense que les choses peuvent évoluer parce que ça existe des artistes femmes qui sont connues, qui sont respectées dans le milieu. Et voilà, donc il suffit seulement de décloisonner et les mentalités. Toujours le même problème pour que les choses avancent.
Pour que les choses avancent. Donc, Evance, que pensez-vous de ces deux femmes mauritaniennes qu'on a entendues dans le portrait?
Ben, elles ont leur place. Je pense que c'est non seulement à elles de se battre, mais aussi pour que la société puisse en général prendre conscience de l'importance et la place de la femme dans la société. Parce qu'en effet, c'est très présent dans le monde de l'art, mais c'est aussi présent dans la société, c'est-à-dire que la femme a besoin de prendre d'avoir une reconnaissance plus importante dans la société.
Alors on a justement des femmes et une femme en particulier qui est artiste plasticienne, qui est en ligne avec nous. Il s'agit de Béa que nous allons prendre en ligne. Bonjour Béa.
Bonjour.
Alors vous venez d'entendre le reportage de deux Mauritaniennes. Vous aussi, vous vous êtes lancée dans cet univers. Comment d'ailleurs vous avez commencé votre parcours?
Premièrement, moi, j'ai grandi à Paris, donc j'évolue à Paris, donc c'est bien sûr d'autres problématiques. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand on est femme et noire d'avancer. Après, on a quand même beaucoup plus de solutions, beaucoup plus de possibilités, une plus grande ouverture en tant que femme ici. Donc voilà, moi, pareil, je suis plutôt autodidacte. Je n'ai pas fait d'école d'art. J'ai fait une école d'histoire de l'art, mais c'est théorique. Il a fallu rencontrer les gens, aller à différents événements, présenter son travail. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Parce que c'est vrai que bon, en étant femme, c'est parfois assez compliqué. Mais de mon côté, en tout cas pour ma part, du côté de l'art contemporain, du monde de l'art contemporain venu d'Afrique, j'ai toujours été ressentie en tant que femme un accueil et un respect, même en étant une artiste femme.
Parlons justement de vos œuvres, j'aimerais qu'on découvre, en tout cas qu'on essaye d'expliquer votre univers. Comment définiriez-vous votre art, Béa?
Déjà, j'utilise la perle, le perlage, comme je suis d'origine bamiléké par ma mère. Mm-hmm. Donc on a tout un art traditionnel du perlage, où on perle des objets. Voilà, perler un objet, c'est comme le recouvrir d'or ou d'ivoire, c'est pour montrer qu'on a de l'argent, qu'on a du pouvoir, qu'on est en place, quoi. Et moi, je me suis dit, dans ce monde où en fait l'objet a l'air d'être plus important que l'humain, je voulais repenser la place de l'humain. Et donc, je me suis mis à perler des êtres humains. Dans des situations différentes, c'est toujours assez, il y a toujours une histoire en fait derrière mon travail. J'ai des travaux plutôt engagés, d'autres plutôt poétiques, qui ont toujours une réflexion évidemment derrière. Donc je pars, en fait, je rencontre des êtres, des individus, et je leur propose de les mouler pour ensuite les perler et les placer dans une idée, dans l'idée que je veux faire de l'œuvre. Donc voilà.
Béa, il y a une histoire. J'imagine qu'il y a aussi peut-être un message fort que vous souhaitez véhiculer à travers vos œuvres.
Ah, ça dépend. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les rapports privilégiés et non privilégiés. Donc, parfois, je vais aborder le fait d'être noire, parfois le fait d'être femme, parfois le fait d'être issue d'une communauté qui est dévalorisée, voire agressée. C'est assez large, en fait. C'est vraiment les rapports humains qui m'intéressent en général.
Merci beaucoup pour votre appel, Béa.
De rien. Merci à vous.
Alors, Kellyanne, quand on entend ce parcours d'art, il y a beaucoup d'interrogations, notamment au niveau du choix. Comment vous avez fait ce choix? Et assumé ce choix surtout?
Alors, le choix n'a pas été très compliqué à faire, étant donné que j'ai toujours dessiné depuis petite. C'est une chose qui m'a toujours passionnée. Pareil pour l'écriture. Donc, lorsque la question de mon orientation s'est posée, je n'ai pas hésité très longtemps. Je me suis dit que c'était ma passion, c'était ce qui me faisait vibrer et qu'il n'y avait aucune raison pour moi d'hésiter. Alors, avec ma famille, ça a été un petit peu plus compliqué.
Oui.
Alors, paradoxalement, je vis dans une famille où la culture a une place très importante. On m'a toujours fait lire, fait voir des expos. Mais lorsque j'ai annoncé à mes parents mon choix, ils ont eu peur, je pense. Ils ont été inquiets car c'est un milieu qui a la réputation d'être incertain, d'être un peu hostile, d'autant plus quand on est femme et noire. Je me souviens de la réaction de ma maman qui m'a dit « Mais est-ce que tu vois des gens qui te ressemblent dans ce milieu ?» Et je pense qu'elle devait avoir très peur de ça. J'avais peur aussi. Et bon, maintenant ça va un peu mieux parce qu'ils ont vu que j'ai réussi à intégrer une prépa. Mm-hmm. J'ai réussi la plupart de mes concours. Je suis dans une très prestigieuse école. Mm-hmm. Et je pense que ça les a rassurés de voir que j'ai réussi à trouver ma place.
Mais c'est intéressant cette question de société. Comment ont réagi vos parents, vous, Evance, quand par exemple vous avez annoncé que vous souhaitiez devenir artiste?
Je pense qu'elles étaient, contentes que j'ai poursuivi ce que je voulais faire. Après, j'ai eu la chance en effet d'avoir des parents qui nous ont jamais poussé à faire tel ou tel métier. Et donc mon choix était basé sur ce qui me plaisait. Et c'était ma passion et on ne m'a jamais poussé, peut-être souvent comme dans d'autres familles, de prendre d'autres carrières sûres. Moi, c'était ma passion qui comptait.
Qui a primé finalement.
Exactement.
Hyacinthe, ça a été le cas également pour vous? Un choix simple à accepter par votre entourage?
Oui, un choix simple, mais en même temps, mon cas est différent parce que moi, à l'époque, quand j'ai arrêté mes études, à partir du brevet, pour faire que ça... Et ça a été accepté, mais on savait pas ce que ça allait devenir parce que la notion d'artiste
était encore flou.
C'était flou, donc même moi je savais pas. Je savais que je voulais faire du dessin, je voulais embrasser une carrière autre que l'enseignement général parce que j'étais sûr de ça. Et même enfin, j'étais convaincu que ça me plaisait, mais je savais pas ce qui me plaisait en fait. Mm. Donc justement, je suis né dans un petit village où l'art n'existe pas, le dessin n'existe pas. Mais je me souviens que petit, je passais du temps à regarder la réalisation des panneaux publicitaires, ça je m'en souviens très bien, et j'étais accroché à ça, et je dessinais à l'école les croquis de sciences naturelles et j'avais toujours les meilleures notes. Voilà, donc ça je savais que je voulais dessiner. Maintenant, ouais. Artiste, c'est venu après.
Ouais. Vous avez été formé dans quelle école?
Alors, la formation, c'est un mot pour moi qui est un peu compliqué pour l'utiliser. Je fais attention à ce mot parce que j'appelle plutôt des initiations que j'ai eu à faire, mm-hmm, dans le modèle vivant et des rencontres en fait. Parce que je suis quasi autodidacte. On m'a pas appris à peindre. On m'a pas appris à dessiner, on m'a initié à dans des temps partiels à voir quelque chose et au bout de 2 heures, une fois par semaine, des rencontres par-ci par-là. Mm. Et c'est comme ça que je me suis fait. Et petit à petit, je faisais de mon côté, je bricolais. Moi, j'appelais ça du bricolage, mais oui. J'étais tellement...
Votre spécialité, c'est laquelle?
J'étais convaincu que... Ben, il n'y a pas de... Ma spécialité, je ne vais pas employer ce mot, mais je suis maintenant dans une forme d'écriture que j'ai trouvée en faisant. Donc, c'est en faisant, par acharnement, par obsession... Parce qu'on peut pas le définir comme ça, et voilà.
Alors, on va essayer de décrire quand même votre univers, mais juste avant, je vais demander à Evance, par rapport à son parcours et de la formation notamment, Kéliane, elle, étudie ici à l'École Nationale Supérieure d'Art de Cergy, c'est
Paris
bien ça?
Cergy, oui, c'est ça.
Voilà. Evance, vous avez été formée au Kenya ou alors à Paris?
Alors, j'ai poursuivi mes études tout d'abord au Kenya jusqu'au bac, où j'avais pris une option art. Après, j'ai poursuivi mes études d'art, mais c'était plutôt orienté vers le graphisme. Mm-hmm. Donc, j'ai fait une école de beaux-arts, mais avec des options de design graphique. Et par la suite, j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans le domaine de design graphique, avant de me replonger plein temps dans l'art de la création plasticien, mm-hmm, que je fais aujourd'hui.
Comment on pourrait décrire votre art, Evance?
Donc, au Beaux-Arts, j'ai porté un projet autour des motifs. Et en fait, de ces motifs, mon projet était de mieux comprendre comment nous avons toujours créé des motifs, l'être humain, comment il a toujours conçu les motifs. Et donc, de cette conception de motifs, non seulement des motifs qu'on peut trouver en Afrique traditionnelle, après des motifs un peu plus récents comme le wax, mais partout sur Terre, au Japon, que ce soit même dans les pays scandinaves, on a toujours créé des motifs à partir de notre environnement. Je voulais une lecture un peu plus universelle, des signes que nous utilisons tous, que ce soit à Paris, à Nairobi ou à Tokyo. Par exemple, du passage piéton, il y a le bonhomme fauvert. Mm-hmm. Et donc, je vais reprendre ce bonhomme fauvert et je vais le tisser graphiquement sur mon ordinateur.
Avec beaucoup de couleurs.
Il y a de la couleur, et c'est mon interprétation des couleurs que je vois autour de moi. J'ai une palette de couleurs. Et donc, ces motifs sont après imprimés. sur un fond en papier et par-dessous, je vais venir avec une plaque de plexiglas et peindre mes personnages, les gens autour de moi que j'aime, des personnes qui aussi utilisent ces signes au quotidien. Et quelque part, il y a un côté de l'être humain que je veux mettre en avant, c'est ce côté où on est beau.
Et vous, Hyacinthe, décrivez-nous votre univers. Comment on pourrait imager tout cela?
Alors, comment on pourrait imager tout ça? Donc, je tenais à signaler que la première grande expo que j'ai fait, à l'époque j'avais 26 ans, donc je suis passé par des installations, par du dessin, de la peinture, et maintenant on voit plus mon travail autour du textile aussi. Donc, moi je me considère comme un faiseur de formes, c'est ce que je dis tout le temps. Donc, ce qu'on peut retenir comme ça... pour quelqu'un qui nous écoute, voilà mon travail autour du tissu cellulaire organique, en fait, comme on peut appeler ça abstraction organique. Moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'intérieur des personnes, des choses qui m'intéressent. Voilà, c'est ça, c'est le côté lien entre les personnes qu'on va trouver dans le travail autour du textile. Donc les personnes liées entre elles, et pour parler d'une trace de mémoire. Donc ça, c'est pour le travail autour du textile. Donc les installations sont beaucoup éclatées, ça parle aussi de l'espace public urbain, ça parle de marché, parce que je voyais les marchés comme des musées à ciel ouvert dans mon pays, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ces genres d'art là, et puis petit à petit, et puis bon, les choses ont évolué. Et voilà, jusqu'à ce que ça donne ce que ça donne aujourd'hui.
Oui, de belles choses en tout cas. Voilà. Et vous, Kéliane, alors que racontez-vous dans vos œuvres ?
La plupart du temps, je parle de mon vécu en tant que jeune fille, en tant qu'individu, mais aussi en tant que femme noire. Je pense que c'est très important. Je parle aussi de choses comme le fait d'avoir 20 ans, de sortir de l'adolescence, de devoir entrer dans la vie d'adulte, devoir prendre sa place dans un monde de plus en plus compliqué. Je parle de ce qui m'entoure, de l'endroit où j'habite, je parle de mes amis. Et comme le disait Béa tout à l'heure, ce qui m'inspire le plus, je pense, c'est les rapports humains. Ouais, les relations.
Est-ce que vous avez déjà exposé vos œuvres?
Non, parce que pour l'instant, je suis encore dans une sorte de cocon qu'est mon école, en fait. Donc, mon travail n'a encore jamais vraiment rencontré l'extérieur, si ce n'est le regard de mes amis, de quelques membres de ma famille.
Oui.
Donc, jamais vraiment exposé.
Et où sera Kéliane dans 10 ans, tiens?
Très, très bonne question. Bah, je pense que ce que j'aimerais faire, c'est... J'aimerais beaucoup travailler dans une maison d'édition, à la direction artistique ou dans le domaine graphique, comme boulot alimentaire, je pense. Mais à côté, ce que j'aimerais le plus faire, c'est exposer, écrire des livres et voilà.
Alors, Évance, parlez-nous de vos projets.
Alors, actuellement, je signale que nous avons une exposition justement avec Hyacinthe de la région parisienne, c'est à Levallois-Perret. Et après, je viens d'entamer un premier projet au Kenya où j'étais en résidence. Et là, je vais le poursuivre l'année prochaine. Et dans quelques jours, je repars encore en résidence en Angola. Pour continuer mes recherches avec des expositions qui vont poursuivre deuxième partie de l'année à Paris, Lagos, Londres, Budapest. Bon, bref, c'est
un peu partout dans le monde. Et c'est intéressant d'ailleurs, Evance, je le disais en début d'émission, on le voit, l'art contemporain africain s'impose de plus en plus. Quel regard vous portez sur cet art, justement?
Je pense qu'aujourd'hui, heureusement, on a de plus en plus d'espace pour exposer notre travail. À Paris, nous avons notamment la chance d'avoir la foire d'art ACA qui met en avant l'art contemporain et le design des artistes non seulement de l'Afrique, mais qui sont intéressés à l'Afrique. Nous avons aussi des manifestations comme 154 à Londres, New York et Marrakech. Et aussi sur le continent africain, nous avons plusieurs événements autour de l'art contemporain, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons quand même de plus en plus à pouvoir s'exprimer, à montrer notre travail. Et ce que je remarque quand même, c'est que même si paradoxalement, dans le monde de l'art contemporain aujourd'hui, nous avons pas assez. En fait, je pense que les femmes ne sont pas assez représentées en tant qu'artistes plasticiens. Mais paradoxalement, la plupart de ces événements sont organisés par des femmes. Déjà, je pense que nous pouvons commencer par aussi changer les choses, puisque les événements sont organisés par des femmes. Mais j'espère qu'on va aussi avoir de plus en plus de femmes plasticiennes.
De femmes plasticiennes, comme en Mauritanie, on vient de le voir. Hyacinthe, le mot de la fin.
Bon, mon travail actuellement est à... Art Dubaï visible aujourd'hui même, à partir on est loin des Émirats, mais
j'ai une pensée
pour exactement pour cet événement qui permet d'être aussi une vitrine vers le monde.
Vers le monde, effectivement.
Pour notre travail. Donc, merci de m'avoir invité.
Et merci à vous, Hyacinthe.
Reçu sur votre plateau. C'était pour moi un plaisir.
Un plaisir partagé. Merci également à vous, Kéliane, d'avoir assisté à l'émission. Et enfin, merci à vous, Evans.
Merci beaucoup, Dara.
Alors, on dit quoi ? Diaran Jai.
Samedi prochain, Alors on dit quoi parlera de l'amour de la lecture. Dites-nous si vous aussi, vous ne pouvez pas vous passer de livres. Moi, par exemple, je suis actuellement en train de relire un classique d'Amadou Kourouma, Allah n'est pas obligé. C'est l'histoire d'un enfant soldat en Sierra Leone et au Liberia. Enfin voilà, juste pour vous dire que la lecture, c'est mon credo. Et on parlera d'initiatives africaines justement mises en place pour transmettre l'amour de la lecture. Réagissez au 33 647 740 742, on attend vos commentaires. Malela avec son son Hosanna. L'artiste belge d'origine congolaise est issue de l'univers gospel. Elle fait actuellement un tabac, j'adore.
Alors on dit quoi ?
Art encore, art toujours, alors on dit quoi ? Met en avant l'art plastique africain et pour le coup celui des femmes. La présence des femmes artistes est une nouvelle donne qu'on ne peut plus ignorer. La scène artistique africaine est en cours de reconnaissance mondiale et la question du féminisme des artistes femmes africaines est avec justesse de plus en plus évoquée, comme nous l'explique Sierra Ba, à l'origine de l'exposition exponentielle. Bonjour Sierra.
Bonjour Terra.
Sierra, vous êtes plasticienne autodidacte. Comment décrivez-vous votre univers artistique ?
Alors, moi, je suis passionnée d'art, donc j'en ai fait depuis très jeune. Je travaille beaucoup avec la peinture à l'huile. Alors, c'est vraiment quelque chose que je fais, que je faisais plutôt dans mon temps libre, qui a toujours été une passion. Mais en même temps, que je ne pouvais pas utiliser comme étant mon premier source de revenus à cause des contraintes qu'on a du point de vue
professionnel,
possibilités professionnelles, etc. Donc voilà, depuis très jeune, j'ai toujours eu ça comme passion, mais à côté, il me fallait faire des études. Du coup, je me suis plus concentrée sur le domaine scientifique et j'ai fait des études en ingénierie pour finir aujourd'hui par nourrir cette passion qui était en moi depuis si longtemps.
Et justement, en parlant de passion, autour de cette passion, la femme africaine a une place capitale. Pourquoi ce choix ?
Alors, c'est un choix qui s'est fait naturellement pour avoir vécu assez longtemps à l'étranger, donc d'avoir choisi de retourner déjà en Afrique. Et en plus d'avoir aussi cette réadaptation à vivre au quotidien, parce que du coup j'ai passé plus de 15 ans à l'étranger. Donc ça, forcément, ça a suscité beaucoup d'émotions. Pour moi, l'art, c'est avant tout de l'émotion, c'est une sensibilité, c'est une expression. Et c'est finalement face à toutes ces réalités, en fait, tous ces défis quotidiens de la femme, que m'est venue l'idée de le traduire, et je me suis dit la même chose que je ressens, probablement que beaucoup d'autres femmes le ressentent, à l'instar de tous ces mouvements qu'on a vu pilluler en 2018, donc le MeToo. Au Sénégal, on a un peu l'équivalent local qui s'appelle le hashtag Doina. Et donc voilà, alors l'art pour moi c'est avant tout un véhicule d'expression. Et je pense que les femmes, elles ont beaucoup de choses à dire.
Oui. Alors Sira, on en vient justement au projet Exponentiel qui a été lancé le 8 mars dernier. Alors d'abord, qu'entendez-vous par ce mot, et ensuite on reviendra sur ce projet en question.
Oui, alors du fait de la dualité de la science et de l'art, de mon côté j'ai aussi ces deux disons, profils. C'est un terme qui est synonyme de croissance, c'est un terme qui est synonyme de vélocité, de vitesse. Et donc pour moi, c'est très symbolique, parce que la femme, à travers le changement, est aussi à l'origine de beaucoup d'évolutions, de croissance, donc forcément. Et ça, quand on réfléchit mieux encore à cette question, on se dit qu'il y a plusieurs thématiques qui peuvent en ressortir. Et donc Exponentiel, c'est une innovation par rapport aux autres expositions qu'on connaît, qu'on a déjà vues, parce qu'on cherche à nourrir non seulement les cœurs avec les œuvres qui sont exposées, mais également les esprits par des échanges. Donc on met beaucoup l'accent sur ça, parce qu'on a mis en place des panels de discussion autour de différentes thématiques.
Donc une partie discussion, un volet discussion où des thématiques comme la créativité et l'influence ou la protection des femmes sont abordées. Et ce qui est également intéressant pour ce type d'exposition, c'est que les hommes aussi ont une place dans cette exposition qui se tient au musée de la femme Henriette Bathilé à Dakar.
Absolument. Donc effectivement, on ne voulait pas un mouvement qui soit nécessairement exclusivement féminin. Bien sûr, parce que le changement, c'est quelque chose qui est porté par les hommes autant que par les femmes. Donc il faut cette complémentarité dans ce projet. Et c'est ce qui nous a poussé avec donc des cofondatrices avec qui je travaille sur le projet. De par déjà nos horizons différents, on s'est dit que c'est sûr qu'on ne pourrait pas faire quelque chose qui ne soit pas inclusif, qui puisse permettre d'exposer des artistes, à peu près une vingtaine d'artistes, qui travaillent sur des médiums complètement différents, de disciplines complètement différentes. Donc on trouve autant de la sculpture, du théâtre, de la peinture, du design et même de la danse dans cette exposition, parce que à chaque fois qu'on aborde un sujet et qu'on fait un panel, on finit par une synthèse et on essaie d'avoir un effet de surprise sur le public.
Un effet de surprise, et quel message finalement vous souhaitez laisser autour de ce projet Exponentiel, Sira ?
Alors, on souhaite vraiment conscientiser l'audience, parce qu'on se définit comme étant des femmes qui sont conscientes, engagées et investies dans la revalorisation du statut de la femme. Donc, c'est vraiment des petits gestes qu'on veut poser, une conscience dans les gestes quotidiens, pour qu'on puisse toutes se donner les moyens finalement de changer les mentalités et de changer les défis auxquels on fait face chaque jour.
Merci infiniment, Sira, et je rappelle que l'exposition Exponentielle se tient jusqu'au 6 avril prochain à Dakar.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour, on dit quoi, RFI ? Moi, c'est Jolie Pegli Akosiwa. Je suis une journaliste togolaise mais résidant à Dakar et je dirais que la jeunesse africaine doit être unie. Et c'est une jeunesse consciente et je sais que quand on est unis, on s'élèvera et on va changer les choses en Afrique. On va faire développer l'Afrique. On va s'unir pour une Afrique unie. Donc moi, c'est mon message pour la jeunesse africaine. Dans cet esprit de panafricanisme, soyons unis et que l'Afrique gagne.
Merci jolie Pegli, ma chère consœur journaliste. Elle nous conseille d'être unis. Dites-nous ce que vous en pensez et si vous aussi vous croyez à cette Afrique unie. Et bien sûr, si vous aussi vous souhaitez laisser un message sur le compte WhatsApp d'Alors on dit quoi, allez-y, nous attendons vos réactions. Présentez-vous avec votre nom et prénom et ensuite adressez votre message à la jeunesse africaine, puis aux aînés et expliquez-nous votre vision de l'Afrique qui gagne.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Alors, on dit quoi, dit stop aux infox qui circulent sur Internet. On vous propose de vérifier des faits qui ont circulé sur Internet en collaboration avec l'école de journalisme EJICOM à Dakar et le site de vérification des fausses nouvelles Africatiek. Bonjour Valdez.
Bonjour Diara.
Valdez, plusieurs articles partagés sur les réseaux sociaux relaient l'information selon laquelle placer des oignons dans ses chaussettes durant la nuit permettrait de soigner les douleurs, d'absorber les mauvaises bactéries ou encore de purifier le sang. Qu'en est-il ?
Alors, parfois accompagnés de vidéos illustratives, ces articles affirment que ce procédé va vous guérir pendant votre sommeil. Tous les sites qui relaient cette astuce disent se baser sur des principes de la médecine chinoise et selon eux, celle-ci établit que nos pieds sont en contact direct avec nos organes internes grâce à leurs 7000 terminaisons nerveuses qui relient nos différentes parties du corps.
Cette méthode a-t-elle vraiment les effets indiqués ?
Eh bien non, Diara, et cela s'explique déjà par les principes même de la médecine chinoise qui est basée sur 5 branches, à savoir l'acupuncture, le massage, la diététique, la pharmacopée et le qigong, qui est une technique basée sur des exercices avec des mouvements lents et travaillant la respiration. La médecine chinoise est surtout axée sur la prévention des maladies et se fonde donc sur une théorie qui ne conçoit le bon fonctionnement de l'être humain que s'il est en équilibre avec son environnement. Autre argument, Diara, dans un article publié en décembre 2012 sur le blog du Bureau pour la Science et la Société de l'Université McGill, le chimiste Joe Schwartz a procédé à un démenti sur toutes les propriétés attribuées à tort à l'oignon sur Internet. Ainsi, concernant l'idée selon laquelle les oignons pourraient absorber les germes présents dans le corps, le professeur Schwartz répond par la négative. Il a ajouté qu'aucun aliment n'attire les bactéries, même si bien évidemment certains sont plus susceptibles de favoriser une contamination bactérielle ou virale une fois infectés.
Et que nous dit la littérature scientifique, Valdez ?
Dans la littérature scientifique, les experts abordent surtout les vertus de l'oignon de par sa consommation. Ici à Dakar, nous avons interrogé le professeur Charles Diémé, qui est médecin orthopédiste à l'hôpital Aristide Le Dantec à Dakar, et il a particulièrement réagi au fait qu'on attribue à l'oignon le pouvoir de calmer les douleurs. Le professeur Diémé relève que pour se débarrasser d'une douleur, il faut adopter une approche étiologique, c'est-à-dire identifier les causes même d'une maladie, car une douleur peut avoir une origine traumatique, dégénérative ou infectieuse. Donc, si on veut traiter une douleur, il faut préalablement connaître sa cause.
Donc, en conclusion, placer des oignons dans ses chaussettes n'a pas d'effet miraculeux.
Tout à fait, Diara, c'est bien ça.
Merci, Valdez.
Merci, Diara, et à la semaine prochaine.
Vous savez que j'adore la musique. Place donc à notre découverte musicale avec Ami Yerewolo, jeune artiste malienne. Place donc au titre Iyomba, issu de l'album Mon Combat.
Salut, moi c'est Ami Yerewolo. Ça fait plaisir. Iyomba, c'est le premier extrait de mon nouvel album qui vient de sortir le 13 octobre 2018. Donc c'est Iyomba, c'est juste un titre qui veut dire soit heureux, soit content. Et dans cette chanson, je dis que enfin l'album il est fini. Après tous ces moments de doute, parfois de confusion. Mais enfin, l'album il est fini et je remercie tout le monde. J'essaie de remercier ma famille, et tout le monde en fait, toutes les personnes qui ont rendu ça possible. C'est ça.
Alla badon ma sa inserie Ni ma son kandambe ferredo Come gulami doko ni edara heche Jigu ya be foma tanke ni ma son maso katige nelai Shuni gili newe yamba Aucho nika yamba Dokero toro jugula bimena yamba Album flana mbana tonga yamba Ya wolo kanu mao ayo wile kau yamba Gala ulu de buyamba Gala gala ulu de buyamba Isona no yare yamba Yumbo, yumbo Malitu narangyo ayaw yamba Yumbo, yumbo Itai washi yamuna iti yamba Yumba, yumba Nyafu nyake, awaki nyaje Nite aminga kula ibitaga yamfe Kumala ngolo tebe badoko nye sebeke Ni rapper to ugera nono ye ami ye fene Beka nyini, beka toka nyira la fili Nyenga la fia, soni njo, soni ndoro Abe bili, checha manku kalikando kufukane Amin kori, muso kiseka tafe Gansanto foni Onfe mali Chinyo fola hede mamani Hede mamani Ainte koshi, koshi Po objektif kake mali Ni osamae Album flana kera tari
Sete ami Yerewolo Et son titre, Iyamba
Coup de gueule. Le coup de gueule.
Bonjour Jara, je suis Diallo Maria, je vis au Mali. Mon employeur actuel encourage beaucoup l'entrepreneuriat. J'ai donc créé ma petite boîte qui évolue dans la communication, l'événementiel et la production audiovisuelle. J'ai plusieurs projets qui promeuvent la gente féminine, le développement socio-culturel des jeunes et le tourisme, car mon pays est un trésor culturel. Pour la réalisation de ces projets-là, j'ai tapé à beaucoup de portes qui malheureusement sont restées fermées. Peut-être que je n'avais pas les bonnes connexions. La réponse le plus souvent, c'était « nous sommes en fin de budget, c'est quand même un très bon projet » ou « c'est la première édition, on va se positionner sur la deuxième ». Donc comment peut-il y avoir la deuxième si la première n'a jamais vu le jour ? J'ai également vécu le fait d'être une femme comme un fardeau quand on veut évoluer dans le domaine du business. Mais sur ce chemin-là, j'ai quand même rencontré des personnes de bonne volonté qui m'ont donné des conseils, mais malheureusement, ils n'ont pas été nombreux, sinon j'en serais pas là actuellement. Mais je continue dans cette lancée-là jusqu'à ce que j'obtienne mon premier contrat. Le mot de la fin, c'est ne jamais baisser les bras, après la souffrance, la récompense. Merci.
Mariam n'est pas la seule à soulever les difficultés d'entrepreneur. Je vous promets qu'on en parlera d'ailleurs dans Alors on dit quoi, car c'est une thématique importante. En tout cas, merci pour ce message Mariam. Et si vous aussi vous en avez marre de quelque chose dans votre pays, eh bien partagez avec nous vos convictions en nous envoyant vos coups de gueule, un coup de gueule en vidéo de 2 minutes que vous pouvez nous adresser sur notre WhatsApp ou sur notre page Facebook.
Alors, on dit quoi sur RFI ?
Place à la rubrique culture d'Anna. Bonjour Anna.
Bonjour Diara.
Aujourd'hui, vous nous parlez d'un rendez-vous tendance en Côte d'Ivoire.
Oui Diara, c'est la Sunday Abidjan.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Il s'agit tout simplement d'un concept de fête ayant lieu le dimanche, pendant la journée, de 15h à 22h. Véritable moment de détente et rencontre pour la jeunesse ivoirienne. Lancé par de jeunes entrepreneurs abidjanais, le rendez-vous souhaite proposer une formule différente de lieu de divertissement. Fini les boîtes de nuit, place au rassemblement festif et tendance.
Et qu'est-ce qu'on y fait à la Sunday ?
Eh bien, on s'y détend, on passe de bons moments entre amis, on y rencontre de nouvelles personnes, on déguste des boissons et surtout, on y écoute du bon son mixé par des DJ locaux. Du hip-hop de l'américain Jay Dilla, en passant par la house du sud-africain Black Coffee ou d'autres artistes talentueux de la Côte d'Ivoire, du Cameroun ou encore du Nigeria.
Et qu'est-ce qui fait la différence de cet événement ?
Eh bien là est toute la différence, Diara. Tout d'abord, il s'agit d'une fête qui a lieu pendant la journée, le dimanche et en plein air, sans dress code imposé, dans une ambiance décontractée. Les prix des consommations ne sont pas exorbitants et on peut y rencontrer la nouvelle génération de créatifs, à savoir peintres, musiciens, photographes, créateurs de mode ou mannequins. Suite au succès des premières éditions, la Sunday est désormais organisée toutes les 2 semaines au Clubhouse du quartier du Vallon à Abidjan. Vous pouvez obtenir toutes les informations nécessaires sur les pages Instagram et Facebook du concept La Sunday Abidjan.
Cool, merci Anna.
Je vous en prie Diara.
Et Joanne est également à nos côtés pour sa chronique conseil. Bonjour Joanne.
Bonjour Diara.
Aujourd'hui, on va faire un tour dans les casseroles.
Tout à fait, et on commence par un chiffre. Saviez-vous Diara que chaque jour, 100 millions de bouillons de cubes sont consommés en Afrique ? Il y a deux produits alimentaires qui font l'unanimité sur le continent. Le cube et la rhum. On a tous un tonton qui verse la rhum dans son plat avant même d'y avoir goûté. Ou une tata qui a toute la collection de cubes dans la cuisine. Crevettes, tomates, bœuf, etc. Le problème, c'est que le cube ou la rhum sont plus des ennemis que des amis.
Comment ça, Joanne ?
En fonction des marques, un carré de cube peut contenir 15 ingrédients. C'est énorme pour un si petit produit. Et parmi ces ingrédients, des exhausteurs de goût et des composants ultra chimiques qui sont nocifs pour la santé. D'après les spécialistes, un cube entier contient pratiquement 5 grammes de sel. Les cubes vendus en Afrique étant plus gros, ils peuvent atteindre jusqu'à 8 grammes de sel. Sachant que l'Organisation mondiale de la santé recommande de consommer 5 grammes de sel par jour, je vous laisse imaginer la quantité de sel que nous ingérons au quotidien entre les repas de midi et du soir. Bonjour l'hypertension.
Dans ce cas, Joanne, que faire pour se passer du cube et de l'arôme ?
Déjà, il faut se réconcilier avec les épices traditionnelles. Entre le poivre sauvage, le piment, la coriandre, le cumin et j'en passe, on a vraiment de quoi faire et on n'a pas besoin de cube, juste d'un peu de sel de mer. En revanche, si on le souhaite, on peut fabriquer le cube soi-même. Vous avez deux options. Option 1, reproduire les cubes à base de viande. Pour cela, il faut récupérer des os ou des morceaux de viande très osseux, les assaisonner avec des épices naturelles, les faire bouillir pendant 1 à 2 heures, récupérer le fond de ce jus et le mettre dans des petits bacs à glaçons, puis au congélateur. Si vous n'avez pas de congélateur, pas grave, conservez au frigo et consommez dans les 3 jours. L'option 2, c'est de reproduire les cubes à base de légumes. Pour ça, il faut laver et découper en dés les légumes de votre choix. Poireaux, oignons, ail, tomates, céleri, courgettes, etc. Puis les laisser sécher sur un mouchoir. Ensuite, faire cuire dans une casserole avec du gros sel jusqu'à ce que l'eau des légumes tarisse. Quand les légumes sont bien secs, passez le tout au mixeur, étalez la pâte obtenue sur un plateau, puis mettez-la au congélateur pendant 2 heures. Et pour finir, découpez la pâte en petits carrés ou rectangles selon votre préférence. Et voilà, vous avez des cubes sains, raisonnablement salés et faits maison.
C'est super appétissant tout ça, Joanne. Merci pour ces conseils.
Au plaisir, Diara.
L'heure de fin est arrivée. Tout de suite, place au journal de RFI. Alors on dit quoi ? Reviens semaine prochaine. Nous parlerons du virus de la lecture qui se propage en Afrique. Selon un adage populaire, si vous voulez cacher quelque chose à un Africain, mettez-le dans un livre. Eh bien, Alors on dit quoi ? Va prouver que cet adage n'est plus d'actualité. Et vous, aimez-vous lire ? Que lisez-vous ? Comment avez-vous pris goût à la lecture ? Et surtout, qui sont vos auteurs fétiches ? Et la semaine prochaine, retrouvez-nous à 11h10 temps universel sur l'antenne Afrique. Et attention, à partir du 6 avril, notre émission sera diffusée à 9h10 temps universel sur notre antenne monde. D'ici là, comme d'hab, vous pouvez nous contacter. Ici, c'est une émission participative, alors on attend vos réactions, vos suggestions et vos commentaires. Partagez et likez notre page Facebook. Suivez-nous sur Instagram, mais aussi sur Twitter. Et réécoutez l'émission sur le site de RFI, sur notre SoundCloud ou même sur Google Podcast. Et n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles sur iTunes. Merci pour votre écoute et merci surtout à toute l'équipe de l'émission, Claire, Beverly, Mariam, Dibril et Guillaume. Bon week-end, salut, Ringongol.